Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Seigneur, il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je prie, Père, que ce matin, que je sois sous l'impulsion du Saint-Esprit. Seigneur, il y a des choses que je pense dire, si c'est pas ça, je prie que tu les écartes. Des choses auxquelles je n'ai peut-être pas pensé, mais si c'est le besoin de quelqu'un, Seigneur, en cet endroit ce matin, je prie que tu le déposes dans mon cœur. Père, nous voulons écouter comme écoutent des disciples. Avec nos cœurs, s'il te plaît, Père, parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés. Ce matin, nous allons parler autour de ce thème, le renoncement à l'esprit de Babel. Le renoncement à l'esprit de Babel. Je nous invite à lire notre premier texte. Vous ne les avez pas dans les papiers d'annonce, donc prière de le noter, s'il vous plaît. Dans le livre de Proverbes, dans le chapitre 7, nous lirons un long texte du 6e au 27e verset. Proverbes 7, 6 à 27. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis et de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamone. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. » Une prostituée mariée. Marié ma prostituée. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Je suis sûr que c'est un mensonge. Il ne reviendra à la maison qu'à la lune, qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tout ce qu'elle a tué. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Notre deuxième texte, comme cela est mentionné dans les annonces, se trouve dans les livres de Genèse, le chapitre 11e. Du 1er au 9e verset. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Le renoncement à l'esprit de Babel. S'il faudrait que je fasse une petite définition du thème, le renoncement, je dirais tout simplement que c'est le fait de cesser volontairement d'agir ou de s'exprimer en fonction de la défense de quelque chose. C'est cesser d'une manière volontaire d'agir ou de s'exprimer en fonction de la défense de quelque chose. Cette chose peut être une idée, cette chose peut être une pensée, cette chose à laquelle on renonce peut être une façon d'être, une façon de faire. Ça peut être un droit, on renonce à un droit. Ça peut être un bien, on renonce à un bien. Ça peut être une activité aussi. Renoncer, c'est cesser volontairement. Mais c'est aussi revenir sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on a dit. On a fait quelque chose, mais on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on devait faire. Ou on a dit quelque chose et puis on se rétracte après. On revient sur la chose qu'on a eu à faire ou à dire. C'est renoncer. Renoncer, c'est se désavouer. Mais renoncer, c'est aussi un abandon, toujours volontaire. J'abandonne. J'étais dans une entreprise, j'abandonne. J'ai choisi volontairement d'arrêter et de me retirer. Renoncer. Renoncer à l'esprit de Babel. L'esprit de Babel. L'esprit de Babel. Pourquoi l'esprit de Babel? Parler de l'esprit de Babel, c'est parler tout simplement de l'esprit qui dominait sur Babel, de l'esprit qui régnait à Babel, de l'esprit qui présidait à Babel, de l'esprit qui conduisait les choses. Vous savez, dans des villes, dans des régions, dans des communes, en tout cas dans des agglomérations, il y a ce que l'on appelle des géants, des principautés. Et vous allez remarquer, même ici à Kinshasa, que si vous allez dans telle commune, on a l'impression qu'il y a un esprit qui domine dans cette commune-là. Et je ne citerai pas de nom, mais il y a des communes où là, on sent que c'est vraiment un esprit d'impudicité, où les jeunes filles ont des enfants dans la maison de leur père, où vous allez voir dans la maison du grand-père, mais tous les petits-enfants sont là. Il y a un esprit qui maintient les gens sous un certain joug. Et vous allez voir dans d'autres communes, les jeunes n'évoluent pas. Le matin, midi, soir, vous allez les voir dans le coin des rues en train de discuter, en train de jouer aux dames, aux cartes ou que sais-je. C'est tout un esprit qui pèse sur cet environnement. C'est un géant, c'est une principauté. Et à Babel également, il y avait un esprit qui régnait, il y avait un esprit qui dominait. Et nous allons, donc, j'étais en train de dire que parler de l'esprit de Babel, c'était parler de cet esprit qui avait de l'emprise sur Babel. Et ici déjà, j'aimerais anticiper en nous disant que le même esprit qui dominait à Babel, l'esprit de Babel, c'est infiltré aussi même au milieu de nous aujourd'hui. Et nous allons le voir. Quand je dis au milieu de nous, je vois l'Église, l'Église corps du Christ, que ce soit ici, que ce soit à Philadelphie, ailleurs, à Kinshasa ou ailleurs, il y a cet esprit qui s'infiltre sournoisement, mais qui est en train de bien prendre place, de fonder, de placer ce fondement et ce fondation. l'esprit de Babel. Babel, qu'est-ce donc Babel? Babel, c'était une ville antique. Et s'il faudrait la situer aujourd'hui, à moins que je ne m'abuse, mais on devrait en principe le trouver vers Bagdad, vers Iran, de ce côté-là. En tout cas, c'était en Mésopotamie. Babel, c'était donc une ville que l'on avait bâtie sur les plaines de Chinéa. Alors, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans plusieurs versions, on n'utilise pas tellement le mot Babel. C'est plus le mot Babylone qui est utilisé. Et dans la version que nous avons, vous trouverez Babel mentionné à deux versets. Si vous lisez Genèse 10, 10, mais aussi Genèse 11, 9, c'est le seul endroit pratiquement où vous allez trouver le terme, le mot Babel. Partout ailleurs, vous allez trouver Babylone, Babylone, Babylone. Mais en hébreu, le terme Babel et le terme Babylone, c'est la même chose. Cela veut dire la même chose. Cela veut dire confusion. Et même là où on a construit la ville de Babylone, c'était exactement au même endroit où on avait construit la ville de Babel. C'était exactement au même endroit. Et ce n'est pas étonnant, si vous lisez la Bible, que vous puissiez vous rendre compte que les mêmes esprits qui dominaient à Babel, c'est le même esprit que l'on a retrouvé plus tard dans la ville de Babylone. Amen. Alors, parler donc de l'esprit de Babel reviendrait aussi à parler de l'esprit de Babylone. Amen. Alors, l'histoire nous renseigne qu'à peu près un siècle après le déluge, les hommes ont eu la pensée, ils ont eu le projet de bâtir une ville. Alors qu'ils étaient en train d'évoluer, ils sont arrivés dans les plaines de Chinéa, ils ont pris la décision de s'y installer et même de bâtir une ville. Et non seulement de bâtir une ville, mais aussi de construire une grande tour. Et si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que les fouilles archéologiques ont trouvé en Mésopotamie de vestiges, de grandes tours. Et c'est pratiquement à la même époque qu'on a eu à construire la tour de Babel. Et cela nous donne une idée sur ce que pouvait être la tour de Babel. C'était de grandes tours construites de manière pyramidale, avec une forme de pyramide. La base était toujours un peu plus grande que, que le prochain niveau. Ce qui fait qu'au niveau de la base, ça pouvait être très, très grand, mais plus ça évoluait, plus exactement. Alors, c'était de forme pyramidale comme ça. C'est un peu à ça que ressemblait la tour de Babel. Et ces grandes tours qui ont été découvertes par les vestiges en Mésopotamie étaient appelées des ziggourats. Ziggourats. Alors, dans la plupart de ces ziggourats, la construction avait un objectif. L'objectif, c'était que dans les sommets de ces grandes tours, on y plaçait des hôtels pour des divinités païennes. C'était au sommet de ces tours-là que l'on célébrait, que l'on adorait les divinités païennes. Alors, les hommes, après le déluge, ont pris la décision de construire une telle tour. Et les historiens et les commentateurs de la Bible pensent même que c'est à partir de ce moment-là que les hommes se sont vraiment plongés dans l'idolâtrie. Ils ont construit cette tour et ils se sont mis à adorer les idoles. Mais regardez ce qui se passe. C'est qu'ils ont pris une décision. Ils se sont dit, nous n'allons pas aller plus loin. Nous allons rester ici. Nous allons nous bâtir une ville. Nous allons construire une tour. Nous allons nous faire un nom. Nous voulons devenir célèbres. Et pourtant, Dieu avait donné un ordre clair. Si vous lisez la Bible dans les livres de Genèse, le chapitre 9, le verset 1er, la Bible dit, « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Également, toujours le même chapitre, mais le verset 7, la Bible dit, « Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Le but de Dieu était clair. Ce que le Seigneur voulait, c'est de voir le peuple de la terre remplir la surface du globe. Dieu voulait que partout qu'il y ait des villes, qu'il y ait des peuples, qu'il y ait des tribus, qu'il y ait des clans, que toute la terre soit remplie par la race humaine. C'était la volonté de Dieu. C'était ce que Dieu voulait. Ne restez pas à un seul endroit. Remplissez la terre, construisez des villes, bâtissez, assujettissez la terre, dominez sur la création, mais que toute la terre soit couverte. C'est ce que je veux, que votre représentation soit partout, en tout lieu. Ne laissez pas un endroit où vous serez absent. Alors multipliez-vous, ayez des enfants au grand nombre, mais remplissez la terre. C'était en ce temps-là, c'est pas maintenant. La terre est suffisamment remplie, donc tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'enfants. Mais voici que les hommes se dirent les uns les autres, vous trouverez cela dans Genèse 11, le texte que nous avons lu, du verset 3 au verset 4. La Bible dit, ils se dirent les uns les autres, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et au verset 4, ils disent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Faisons-nous un nom. Mais écoutez la raison qui se donne. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Français courant dit, ainsi nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur la surface de la terre. Alors que Dieu était clair. Ma volonté, c'est que vous puissiez vous disperser. Je veux vous voir partout. Je veux vous voir remplir la terre. Mais les hommes se sont consultés et ils se sont dit, nous refusons volontairement de faire ce que Dieu nous a dit par notre ancêtre Noé. Nous n'allons pas nous disperser, nous voulons rester ici. Nous voulons bâtir notre ville. Nous voulons bâtir même une tour. Bien-aimé, c'est quoi l'esprit de Babel? L'esprit de Babel, c'est un esprit de rébellion de manière délibérée à la volonté de Dieu. L'esprit de Babel, c'est un esprit de révolte à tout ce qui est principe divin, à tout ce qui est loi divine, à tout ce qui est pensée divine. Et ce qui me choque, c'est que non seulement que les hommes choisirent de désobéir, mais ils vont plus loin. Il y avait un esprit d'orgueil au même moment qui montait dans leur cœur. Au lieu de se limiter là tout simplement, ils se sont dit, bâtissons premièrement une ville, je veux bien, mais limitez-vous là. Les hommes disent, non, nous allons aller plus loin. Nous allons nous bâtir une tour. Pourquoi? Parce que nous voulons nous faire un nom. Nous voulons nous donner un nom. D'autres versions disent, nous voulons bâtir un monument. La tour de Babel s'est levée comme un monument marquant, certifiant la désobéissance volontaire de la race humaine. Non seulement qu'ils ont désobéi, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu un peu comme défier Dieu. Nous désobéissons, nous ne voulons pas faire ce que tu nous dis de faire. Et en plus, nous voulons bâtir un monument. Notre désobéissance doit être marquée. Notre désobéissance doit être scellée. Nous voulons que le monument soit bien visible, que nous puissions voir au travers de ce monument une marque et un signe de notre désobéissance. Nous voulons même que l'histoire puisse parler de notre désobéissance. Non seulement que nous ne ferons pas ce que tu dis, mais en plus, il y aura un signe, il y aura un symbole, il y aura une marque, il y aura un sceau, il y aura un monument de notre refus de faire ce que tu nous dis de faire. À chaque fois que les hommes verront ce monument, ils sauront qu'à une époque de l'histoire de l'humanité, des gens ont résisté à celui qui croyait être le Créateur. Ils se sont dit, nous voulons que même les générations qui vont venir après, même nos enfants, les enfants de nos enfants, qui puissent voir ce monument et qui se rendent compte de quoi nous avons été capables. Non seulement que nous avons refusé, mais nous avons défié Dieu. Donc cela a été un acte volontaire, un acte délibéré. Il savait ce qu'il était en train de faire. Et l'esprit de Babel amène justement cette attitude. Non seulement que les hommes refusent de faire ce que Dieu demande, non seulement que les hommes choisissent de désobéir, mais en plus, ils marquent un sceau à leur désobéissance. C'est volontaire. Et dans cette église, il y a cet esprit qui est en train d'entrer sournoisement, mais qui s'installe. Ou autrefois, des gens qui marchaient dans la crainte de Dieu, non seulement qu'aujourd'hui ils tombent par accident, mais ils en font des projets. C'est étonnant de voir l'Église. Écoutez, ce matin, je ne voudrais pas trop parler de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je parle à ceux qui connaissent Dieu, à ceux qui ont rencontré le Seigneur. Mais voilà qu'avec le temps, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu comme un relâchement dans ta vie. Et ce qui était pour toi occasionnel aujourd'hui, c'est des choses que tu as fait à soi. Des choses pour lesquelles, tu en as donné un fondement. Tu as fait asseoir cela. Et tu sais que le Seigneur n'est pas d'accord avec toi. Mais volontairement, tu le fais. Écoutez, je suis encore d'accord. Tombe, mais que cela soit vraiment comme on le dit, que tu sois tombé. Mais puis relève-toi. J'aime quand le prophète Jérémie dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Tu es tombé, ça peut arriver. La Bible dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Nous bronchons tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela peut arriver. Mais écoutez, quand l'esprit de Babel s'installe, non seulement que l'homme, non seulement que les enfants de Dieu, non seulement que les chrétiens tombent, mais ils s'installent, ils bâtissent de monuments, ils construisent de tout, ils s'identifient, ils se reconnaissent, ils l'acceptent et ils restent là. Je prie Dieu que ce matin, que quelqu'un puisse renoncer à l'esprit de Babel. Seigneur, s'il m'est arrivé de tomber, je sais que tes bras sont ouverts, tu ne me rejetteras pas. Je reviens et Dieu pardonne. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu apporter un message de condamnation, non. Il est venu avec un message de relèvement, avec un message de restauration, avec un message de rétablissement. Avec un message du salut, j'aime dire, le Seigneur n'est pas venu enterrer le mort, il est venu donner la vie au mort. Il est venu redonner la vie, ressusciter le mort. J'aime quand Ésaïe déclare, je n'éteindrai point la mèche qui fume, je ne briserai pas le roseau cassé. À l'ancien temps, il n'y avait pas de lumière comme nous avons aujourd'hui, il n'y avait pas de projecteurs, des ampoules, de lampes électriques, il y avait des torches. Et ces torches fonctionnaient avec l'huile. Et quand il n'y avait plus suffisamment d'huile, ou quand la mèche n'arrivait plus à attirer convenablement l'huile, au lieu de donner du feu, la mèche donnait de la fumée. Et dans une pièce, la fumée asphyxiait, ça étouffait, tout le monde suffoquait. Et la tendance était d'éteindre la mèche. Pourquoi? Parce que ça dérange. Au lieu de donner ce qui va nous servir, toi tu nous fais du mal. Et l'homme venait éteindre la mèche. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, quand bien même la mèche serait en train de fumer, moi je ne l'éteindrai pas. Je viendrai redonner la flamme. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie plutôt. Au lieu d'être une lumière, tu donnes une fumée et tu asphyxies autour de toi. Tu es devenu une occasion de chute pour plusieurs. On ne te reconnaît pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur est capable de te redonner la flamme d'autrefois. Alléluia. Il est capable de te restaurer, il est capable de te relever. J'aime le dire et je le redirai encore. Moi que vous voyez, je suis le fruit d'une restauration. Vers les années 94, 93, 94, 95, Dieu m'a fait grâce de me convertir quand j'étais très, très jeune, vers 13, 14 ans. Et vers ces années-là, l'adolescence, la puberté, on était emportés par le vent de la jeunesse. Et vous savez, Dieu m'a fait grâce quand je me suis converti avec beaucoup de zèle. Et à l'école, partout où je passais, je prêchais l'évangile avec des amis. Les gens savaient que j'étais un enfant de Dieu. Les gens ils connaissaient mon identité. Mais il est arrivé un temps où, pris par le vent de la jeunesse, je me suis écarté de la parole de Dieu. J'ai fait naufrage et je me suis retrouvé dans des choses que je ne pourrais pas mentionner ici du haut de cette chair. Mais en tout cas, rien à voir avec la vie d'un chrétien. Moi, je savais dans mon cœur, et comme j'aime le dire, quand on sortait avec des amis de foi, on mettait de la musique parce qu'on ne voulait pas entendre autre chose. Vous savez, le Saint-Esprit est constamment là. Et une fois qu'on s'était, on entend sa voix. Reviens, ce n'est pas ta place, reviens, reviens. Et à un moment, on ne voulait plus entendre cette voix. Et on cherchait des endroits où il y avait beaucoup de bruit. On cherchait des endroits où il y avait de l'agitation. Il fallait que l'on soit constamment en mouvement. Pourquoi? Parce qu'une fois dans le silence, l'esprit revenait. Oh, merci Seigneur, parce que ton esprit ne s'est jamais fatigué de m'en parler. Mais ce qui se passait, c'est que quand je restais seul, il y a ce malaise qui revenait dans mon cœur. Il y a cette tristesse qui ne me quittait pas. Et constamment, je sentais, tu n'es pas à ta place, ce n'est pas ta vie. Et un jour, j'étais fatigué, je me suis dit, non, j'arrête de me battre, je rentre chez mon père. Et quand je suis revenu, le Seigneur ne m'a pas rejeté, Dieu ne m'a pas jugé. J'aime bien aimer cette histoire que l'on rencontre dans la Bible quand on parle de la femme adultère, celle qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Les maîtres de la loi, les pharisiens, l'ont amené auprès du maître. Et ils lui ont dit, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse, d'après sa loi, nous a ordonné de lapider une telle femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et ils étaient tous prêts avec leurs pierres pour en finir avec cette prostituée, cette adultère. Le Seigneur Jésus-Christ a regardé ces gens et leur a dit, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et la Bible dit, du plus petit au plus grand, personne n'a été capable de le faire. Ils ont tous lâché leur pierre et ils sont partis. Et le Seigneur se retournant en ce moment-là vers cette femme, il lui a dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? La femme s'est rendue compte qu'il n'y avait plus personne. Et avant même qu'il n'ait dit quoi que ce soit, le Seigneur lui dit, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Le Seigneur ne lui a pas dit, femme, combien d'avortements tu as fait? Le Seigneur ne lui a pas dit, femme, combien de couples tu as brisés? Le Seigneur ne lui a pas dit, femme, combien de cœurs tu as blessés? Combien de larmes tu as fait couler? Combien de dégâts tu as fait dans des ménages de gens? Non, le Seigneur n'a pas passé son temps à lui rappeler ses failles et ses faiblesses. Cette femme était condamnée, elle n'attendait plus que la mort. Elle savait que ce que j'ai fait, c'est mal. Voilà, j'ai été surprise, je ne peux rien dire. Elle s'attendait à ce que le Seigneur, prophète qu'il était, se mette à lui parler, à lui donner les heures, les jours, les lieux de ses failles, de ses délits, de ses péchés. Mais le Seigneur a regardé cette femme, il lui a dit, femme, je ne te condamne pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne te condamne pas. Qu'est-ce qui culpabilise ton cœur? Qu'est-ce qui pèse dans ton cœur? Est-ce les avortements que tu as eu à faire? Est-ce ce mensonge? Est-ce cette chute que tu as connue? Est-ce ces faiblesses qui te rongent? Je suis venu te dire que Dieu ne te condamne pas. Ce qui préoccupe Dieu, ce n'est pas le fait que tu sois tombé. Ce qui préoccupe Dieu, c'est le fait que tu restes dans la chute sans pour autant te relever. Et c'est de ça que je voudrais parler ce matin. Ne reste pas dans ta chute. Pourquoi bâtis-tu un monument à l'honneur de ta transgression? C'est possible de se relever. Que le diable ne te trompe pas. Deux fois, je sais, moi ça m'est arrivé. Quand tu veux prier, il y a ces images qui te reviennent. Il y a ces choses qui te reviennent et à peine tu lèves les mains, ça revient, ça te décourage. Tu es fatigué, tu te vois si impur au devant de Dieu. Non, tu ne seras jamais aussi impur aux yeux de Dieu. Car le sang de l'agneau est si efficace et si puissant qu'il n'y a aucun péché qui ne peut purifier. Dieu ne te regardera jamais comme impur, jamais. Pourquoi? Parce que son fils a payé pour que nous ne soyons plus considérés comme des impurs. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Alors, de là où tu es tombé, relève-toi, mais arrête de construire ce monument. Tu sais que ce que tu fais est mal, mais pourquoi tu demeures dedans? L'esprit de Babel. Ils se sont obstinés. Et bien plus, ils ont défié le Seigneur, car l'esprit de Babel est aussi cet esprit qui défie l'autorité établie. Aujourd'hui, nous voyons l'esprit de Babel s'installer, pas seulement dans l'église, mais aussi dans nos familles, mais aussi dans nos milieux de travail. Comme je disais au départ, l'esprit de Babel, c'est cet esprit qui défie l'autorité, qui nous pousse à la rébellion, à la révolte. Aujourd'hui, nous le voyons dans des familles, que des femmes qui se révoltent contre leur mari. N'avez-vous jamais entendu le genre de paroles? Ceux qui ont mal à t'aimer, Meka. Eh, madame. Et vous serez étonné d'entendre ça de la bouche des enfants de Dieu, et même de la bouche de ceux qui servent le Seigneur. de la bouche de ceux qui tiennent les micros, de la bouche de ceux qui lèvent leurs mains. Et vous savez, l'esprit de Babel, c'est qu'on est dans le mal, on construit la tour, mais on ne s'en rend pas compte. Parce que laissez-moi vous dire que rien que la préparation pour la construction de cette tour a pris 3 ans. Ils préparaient les matériaux. Parce que vous savez, dans la plaine de Shinéar, il n'y avait pas de pierres. Ailleurs, vous pourriez trouver des grandes pierres qui servaient à la construction de ces édifices. Mais là, il n'y avait pas de pierres. Il fallait construire des briques. Il fallait bâtir, il fallait travailler. Et ils allaient loin. Ils cherchaient des matériaux. Ils revenaient, ils rassemblaient. Les historiens nous disent qu'ils ont pris 3 ans. Et pendant ces 3 ans, les hommes quittaient leur maison. Ils allaient chercher des matériaux, ils revenaient. Et ils travaillaient tout en étant conscients que ce que je fais, Dieu n'est pas avec moi et je ne suis pas avec Dieu. Mais ils suent, ils transpirent, ils font des efforts tout en sachant que Dieu n'est pas avec moi et je ne suis pas avec Dieu. Pourquoi t'obstines-tu? Et comment arrives-tu à supporter ce poids dans ton cœur? Comment tu fais? Quand tu sors le matin, tu sais que le chemin que je veux emprunter, Dieu n'y est pas. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Cela est à dépasser le niveau de la chute, de tomber. Tu n'avais pas prémédité, mais tu en es arrivé à un degré, à une dimension de préméditation. Toi, tu tombes avec préméditation. Aujourd'hui, on est dimanche. Lundi, je vais le voir. Lundi, je vais la voir. Et il va se passer ci, il va se passer ça. Tu as un programme. Oh! On m'a parlé d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui vivait dans des faiblesses avec une jeune fille. Ils n'étaient pas mariés. Et un jour, ils sont allés dans une des églises ici à Kinshasa. Le prédicateur a prêché, il a condamné ces choses. Il a encouragé le peuple de Dieu à craindre Dieu. Et l'homme de Dieu était là aussi. Un homme puissant qui sert le Seigneur, qui prêche. Et la jeune fille nous dit, après le culte, il lui a regardé, il lui a dit, rendez-vous dans un assatien. Comment est-ce possible, oh Jesus, que le Seigneur nous garde? Seigneur, garde-moi d'une telle incrédulité. Garde-moi que je n'arrive jamais là. Je veux être comme David. La Bible dit, David a tenu cette épée, voulant frapper Saül. Son cœur se mit à se battre. Père, garde-moi. Je veux garder cette sensibilité. Que je sois comme un ballon dans l'eau. Que je ne tienne pas. Que quelque chose me sorte, me propulse vers l'extérieur. Ma prière, je prie que ce soit aussi ta prière. Ne sois, écoutez, dès l'instant que tu commences à te rendre compte que des choses que tu ne supportais plus autrefois, mais que maintenant tu supportes, fais gaffe, parce que l'esprit de Babel commence à te guetter. Autrefois, tu ne supportais pas. Mais aujourd'hui, non seulement que tu es dedans, mais tu encourages même les autres à y entrer. Ah, mais et ça, on est le retard. Tu vas oublier. Oui, ils encouragent même. Et les chrétiens arrivent même à un niveau, comme le pasteur Roland nous racontait, que maintenant, Diboso, tu étais dans la médisance, dans des calomnies, et puis tu t'es converti, tu es sorti dans ces choses. Mais à un moment, tu as commencé à t'affaiblir, tu es rentré dans ces choses, mais tu rentres petit à petit. Maintenant, tu ne calomnies plus directement, mais tu introduis. Au moins, il y a Gisèle. Et au moins, il y a Gisèle. Tu donnes juste une introduction. Non, mais pourquoi tu me parles de Gisèle? Non, je voulais juste... Non, parce qu'en fait, son pagne, mais bon, rien de mal. Et puis, oh, tu avais aussi vu ça. Mais le pagne... Mais Gisèle, il va où là? Écoute, si tu te rends compte que Gisèle ne sait pas s'habiller, mais après, c'est ta soeur. Écoutez, tu lui fais plus de mal... En parlant d'elle à quelqu'un d'autre. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'un jour ou l'autre, cet autre-là ira le lui dire. Et c'est là que la méfiance entre dans l'église. Car quand l'esprit de Babel vient, il ne vient pas seul. Il a tous ses amis, ses collègues avec qui il vient. La méfiance s'installe dans l'église. On vient à l'église, tu sais, amen, porte, elle n'a qu'ai. Moi, je ne supporte pas la communion fraternelle. Dès qu'on dit amen, je pars. Pourquoi? Parce que les gens se disent, comment pouvons-nous être méfiants à l'église? C'est pourtant à l'église que l'on devait être à l'aise. C'est pourtant à l'église que je devais me sentir en confiance. C'est pourtant à l'église que je devais rien avoir à cacher. Mais aujourd'hui, j'ai peur de mon frère. Mon frère qui est juste à ma gauche, avec qui, oh Jesus, avec qui nous élevons les mains. Et quand on nous dit, tenez-vous la main dans la main, je tiens sa main, je prie avec lui. Oh Dieu. La Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander, Dieu donnera. Mais comment pourrons-nous nous accorder si déjà dans le cœur, il y a cet esprit de méfiance? Nous ne sommes pas capables de nous déplacer tout en laissant nos sacs. Parce qu'on ne sait jamais. Et vous savez, des fois, quand nous faisons des appels, nous sommes même obligés de dire aux gens, quand tu viens là, viens avec ton sac dans l'église. Et vous savez, nous avons entendu deux choses. Des fois, des gens qui volent dans l'église, Jesus, ce n'est pas des païens, c'est des chrétiens. Et des fois même qui travaillent à l'église. Et nous sommes devenus méfiants. Vous savez pourquoi? Parce que ces choses, l'esprit de Babel entre petit à petit. Au fur et à mesure, tu lui laisses un espace, il ne se contente jamais de ce qu'on lui laisse. Il va toujours plus loin. Et très sournoisement, il évolue. Et avant que tu te rendes compte, tu te verras déjà en train de faire des choses que tu ne supportais plus autrefois. Vous savez, avec l'esprit de Babel, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a comme un plaisir malsain dans l'interdit. Ça, c'est l'esprit de Babel qui entretient cela. Quand on te donne quelque chose, normalement, tu as comme l'impression que tu n'en jouis pas pleinement. Mais quand tu le prends de manière subtile, tu as une surexcitation. Regardez des gens qui courent derrière d'autres femmes. Et le diable s'arrange toujours. Pourquoi? Parce que l'esprit de Babel est dans et œuvrant. Il va s'arranger pour que le jour où tu vas toucher une autre femme que ta femme, que ça soit comme jamais ça n'a été. Et d'ailleurs, dans cette histoire-là, laissez-moi vous dire, c'est dans la tête. C'est psychologique. Une femme reste une femme. Qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rouge, qu'elle soit jaune, ça reste une femme avec les mêmes fonctionnements. Oh, suis-je en train de parler à un mari? Une femme est une femme. Un corps est un corps. Et un est un. Oui. Mais le diable, par un esprit de Babel, le diable va mettre en toi comme une surexcitation. Tu ne tiens plus. Tu as l'impression que c'est ce qui est plus bon. C'est ce qui est plus alléchant. C'est ce qui est plus intéressant. Non, tu es sous l'emprise de l'esprit de Babel. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin de renoncer à l'esprit de Babel. Et l'esprit de Babel te poussera toujours un peu plus loin. Regardez les fiancés. Aujourd'hui, vous commencez par un petit baiser, bien innocent, sur la joue. Mais avec le temps, ça se rapproche un peu, toujours un peu plus du centre. Comme je vous ai raconté l'histoire d'une sœur, elle était terrible. Fais attention quand tu veux lui faire la bise, parce qu'elle peut te tangenter juste là. Et puis tu restes là, tu réfléchis, dis Seigneur, était-ce un accident? Mais c'est déjà fait. Alors en ce moment-là, le diable vient dire, ah, mais pasteur, tu vois pas que c'est une ouverture? Et le diable, c'est comme ça qu'il évolue. Et puis ça, je dis, il revient toujours un peu plus vers le centre. Et demain, c'est des bisous très frontaux. Et au départ, on trouve toutes sortes d'excuses. Non, mais on est engagé, puis on est marié. On est plutôt, on a des projets. Non, des fois même, c'est même pas encore au niveau de fiançailles. Hein. Et puis après, ce n'est plus de bisous secs. C'est un peu plus mouillé, un peu plus prolongé. Et l'esprit de Babel est là pour vous pousser. Et dans ces choses, qu'est-ce qui se passe? C'est que spontanément, enfin j'allais dire de manière proportionnelle, il y a une insatisfaction aussi qui s'installe. Vous poussons à l'aide de l'esprit de Babel d'aller toujours plus loin, de traîner toujours plus longtemps, et puis vous vous touchez. Vous touchez autrefois le dos, mais puis le dos, c'est plus le dessus du dos, mais c'est un peu plus le bas de dos. Et demain, ça passe devant, et c'est comme ça que vous allez un jour vous retrouver. Pasteur, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé seulement avec les cinglés. Comment tu en es arrivé là? Comment tu en es arrivé là? Si le temps ne nous le permet pas, le dimanche prochain, nous allons le dire, comment l'esprit de Babel fonctionne. Comment il arrive à nous attraper au niveau de notre pensée? Comment il arrive à s'installer, à s'asseoir? Et en ce moment-là, il commence à te malmener. Il paralyse ta volonté. Tu n'as plus de force. Un peu comme cette femme étrangère a saisi cet homme. À force de paroles, elle est arrivée à séduire l'homme et l'homme s'est retrouvé en train d'être mené comme un bœuf qu'on amène à la boucherie. Il n'a plus de contrôle de lui-même. Il n'a plus le contrôle de sa volonté. C'est l'esprit de Babel. Tu te rends compte que tu n'as plus de force pour résister. Nous allons parler un peu plus en détail le dimanche prochain. Oui, il te pousse toujours un peu plus loin. Toujours, dépasse, va un peu plus au-delà de limites. Avant que tu en arrives là, arrête-toi. Car tu n'es pas obligé de céder. Tu n'es pas obligé de te laisser aller. La Bible déclare que Dieu nous a affranchis du pouvoir du péché. Le Seigneur nous a donné la capacité de dire non. Tu peux résister à l'esprit de Babel. Tu peux dire non. Et ce qui me dépasse, c'est que le Seigneur se rend compte que non seulement qu'ils ont construit la ville, ils ont construit cette tour, ce monument volontaire. Le Seigneur dit, maintenant descendons pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Écoutez, moi je serai à la place de Dieu. En tout cas, vous allez entendre parler d'un second déluge. Oui, je vous assure. Heureusement que je ne suis pas Dieu. Heureusement que moi-même, du reste, j'ai eu besoin de la miséricorde. Et le Seigneur a regardé, il s'est rendu compte de, non seulement de la désobéissance, il est rendu compte du côté obstiné, il s'est rendu compte du côté volontaire des actes que les hommes étaient en train de poser. Comme je disais, un second déluge devait venir. Mais rappelez-vous, notre Dieu, c'est le Dieu des alliances. Un jour, il a dit à Noé, écoutez, regarde cet arc. Plus jamais je détruirai la terre par le déluge. Eh bien, que Dieu était touché dans son cœur, mais il était pris par sa propre promesse, pris par sa propre parole, pris dans son alliance. Et notre Dieu respecte toujours sa part du contrat, même quand nous ne respectons pas. Il reste fidèle, même quand nous sommes infidèles. Écoutez, Jesus, un contrat est constitué au minimum de deux parties. Et chaque partie a le droit de résilier le contrat au moment de son choix. Et une des causes de résiliation de contrat, c'est que quand l'une des parties n'accomplit plus ses prestations comme cela a été convenu au départ, n'est-ce pas? Oui, alors là je me rétracte. Parce que tu ne prestes plus selon nos contrats. Je me retire, le contrat est brisé. Dieu avait une alliance avec Dieu. Il avait un contrat avec les hommes, je voulais dire. La pluie, le déluge ne descendra plus. Mais c'était quoi qui avait à la base, qui était à la base du déluge? C'était la pensée des hommes qui s'est tournée encore et encore, toujours plus vers le mal. Le Seigneur voulait purifier la terre. Et quand la pluie est tombée, il a purifié la terre. Noé sacrifie les offrandes. Dieu sentit une odeur agréable. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il attendait. Et s'il en est arrivé à décimer la création, c'était à cause des offenses des hommes qui ne faisaient qu'augmenter. Mais à Babel, c'était la même chose. Donc l'homme avait brisé sa part du contrat. Dieu pouvait être en droit de faire descendre encore une seconde pluie. Quelqu'un me dira, certes, si la pluie ne descend pas, Dieu peut décimer par le feu. La terre peut s'ouvrir et engloutir tout le monde. Dieu pouvait faire, il pouvait envoyer une peste, il pouvait envoyer la maladie. Dieu pouvait faire tout ça. Je me rends compte d'une chose. Aussi élevée qu'était l'offense, le Seigneur descend au lieu de décimer tout ce que Dieu fait. Il confond les langues. C'est tout ce que Dieu fait. Il confond les langues et les hommes. Bien calmement, chacun se retire avec les gens avec qui il pouvait s'entendre. Ça, c'est l'amour de Dieu. Écoutez, le Seigneur ne nous traite pas toujours par rapport à nos offenses. On est surpris de voir un homme, encore et toujours encore, il s'enfonce dans le mal, mais il vit toujours. Et des gens qui apparemment craignent Dieu, c'est eux qui partent. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Dieu a son jugement qui n'a rien à voir avec le nôtre. Alléluia! Le Seigneur, quand il te regarde, il ne te traite pas selon que tu le mérites. Alors arrête de penser que si tu as ce que tu as, c'est parce que tu as plu au cœur de Dieu. Non! Dieu t'a aimé et par sa grâce, il t'a favorisé. Tu ne mérites rien. Parce que si Dieu devait te traiter selon que tu le méritais, frère, tu ne serais plus là où tu es. J'aime toujours le jour où Moïse se retrouve sur la montagne en train de recevoir les instructions de la part du Seigneur. En bas, il y a des hommes qui sont en train de se compromettre, de le trahir. Les hommes se sont révoltés contre Dieu. Ils ont dit à Aaron, construis-nous un veau d'or. Nous voulons un Dieu que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher. Et Aaron, lui qui était resté, lui qui avait la charge du peuple, lui qui avait la responsabilité du peuple, lui qui était censé conduire le peuple, il se met à faire le veau d'or. Mais pendant que Aaron est en train de faire le veau d'or pour le peuple, là-bas, au-dessus de la montagne, Dieu est en train de confier le sacerdoce, la sacrificature à Aaron. Seigneur, Aaron est en train de se compromettre. Est-ce que tu ne le vois pas? Sur la montagne, Dieu dit, ton frère Aaron, ça sera lui le souverain sacrificateur. Ça sera lui qui va conduire. Ça sera... Oh, Jesus. Et j'imagine Aaron, le jour où Moïse lui dit, voilà, c'est toi que Dieu a choisi comme souverain sacrificateur. Aaron serait dit, tu n'es rien du tout. C'est Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Écoutez, ce que tu es, Dieu aurait pu le faire avec quelqu'un d'autre. Tu n'as rien mérité. C'est pas que tu as attiré particulièrement le regard de Dieu. Non! C'est pas que tu as impressionné Dieu et Dieu est venu vers toi. Non! Tu es marié par grâce. Tu travailles par grâce. Tu as une promotion par grâce. Tu réussis par grâce. Tout n'est que grâce. Et Dieu fonctionne en fonction de sa fidélité. Il est fidèle. Même quand toi tu es infidèle, lui il reste fidèle. Alléluia. Avant de clôturer, nous allons continuer le dimanche prochain. J'aimerais nous dire une chose. Frère, l'esprit de Babel, c'est un esprit de séduction. Nous parlerons profondément le dimanche prochain. Quand il vient, il séduit. Ce qui me batte, c'est que ce jour-là, avant que les hommes disent, venons, allons-y, construisons, bâtissons, j'imagine cela n'est jamais venu comme un fait spontané. Paf, construisons, non. C'était une pensée que le diable avait injectée dans l'esprit de quelqu'un. Et la pensée a commencé à mûrir. La pensée a commencé à se développer. Et jusqu'au moment où la personne s'est mise à partager avec l'autre. Mais nous pouvons construire une tour. Mais Dieu a dit, oh, écoute, arrête avec ces histoires de Dieu. Nous pouvons bâtir une ville et devenir célèbres. Nous faire un nom. Imagine un nom. Nous allons nous faire un nom. Est-ce que tu te rends compte? Nous allons devenir célèbres. Et la deuxième personne a accepté la pensée. Et finalement, tout le monde était d'accord pour faire la même chose. Comment est-ce que le diable arrive à mettre tout le monde d'accord pour offenser Dieu? C'est l'œuvre de l'esprit de Babel. Tout le monde se met d'accord. Le diable a eu le temps de convaincre personne après autre. Et même les gens qui pouvaient résister. Et finalement, le diable les a séduits quand même. Ils ont accepté. Et tout un peuple... Tous, derrière une seule idéologie, offensaient Dieu. Y avait-il personne qui pouvait s'arrêter pour dire, écoutez, cette voie n'est pas la bonne? Non, tout le monde était séduit. Tout le monde était dedans. Tout le monde était pris dans le filet de l'esprit de Babel. Et nous voyons encore aujourd'hui comment est-ce que le diable est en train de mettre des gens d'accord, des familles d'accord, toute une église. Vous entrez dans une église, tout le monde est d'accord. Il y a un esprit d'adultère qui règne dans l'église en partant du pasteur jusqu'au plus petit de l'église. Tout le monde est d'accord. J'ai entendu un homme de Dieu qui dit, écoutez, mais oui, écoutez, c'est des choses vraies, authentiques. Et l'église est, oh Jesus, et chaque matin quand les gens viennent, les fidèles savent que quand je vais écouter la parole de Dieu d'un pasteur adultère. L'esprit de Babel met des gens d'accord. dans des familles. N'avez-vous jamais vu des familles qui se réunissent ensemble pour faire le mal? Ils sont tous d'accord. Comment est-ce possible? Comment il arrive à vous avoir, vous tous, comme ça? Le diable met d'accord même des états, des nations qui se mettent ensemble. Ils votent une loi, mariage pour tous. Tout le monde est d'accord, au Parlement, tout le monde. Qui sont pour? Tout le monde, majorité. Nous voulons le mariage pour tous. Et on signe. C'est avalisé, c'est accepté, toute une nation, et les gens acclament, les gens applaudissent. Nos gouvernants sont des évolués. J'écoutais aux infos, je crois que c'était en France, en parlant de la prochaine législature, je ne sais plus si c'était en France ou en Allemagne, mais un homme critiquait un potentiel candidat en disant, lui, il aura du mal à passer. Pourquoi? Parce qu'il est encore de la vieille école. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était contre le mariage pour tous. Il était contre l'homosexualité. Et un ami qui est aux États-Unis m'a appelé hier, il me disait, ici, c'est terrible, c'est pas comme chez vous. Quand tu prêches, fais attention, tu ne peux pas tout dire. Ne parle pas de l'homosexualité, non, il ne faut pas. Et il m'a cité un grand pasteur que je connaissais, que j'admirais, qui a eu un méga church. Et ce pasteur a encouragé les homosexuels en disant que les homosexuels iront au ciel. Ah, l'esprit de Babel. Et sournoisement, il est en train de nous atteindre. Frères, l'heure est arrivée où nous devons nous réveiller et être vigilants. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est le temps de veiller. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Arrête de dormir, réveille-toi. Parce que pendant que tu dors, l'esprit de Babel travaille et il gagne du terrain. Notre nature, c'est être de sel. Le sel arrête la putréfaction. Le sel arrête la corruption. Le sel arrête la pourriture. Et Dieu nous a placés, t'a placé, m'a placé, afin de résister à l'esprit de Babel. J'aime, c'est que quand vous lisez la Bible, même quand le peuple se compromettait, Dieu s'arrangeait pour que quelque part qu'il y ait toujours un reste fidèle. Et je suis venu parler à un reste ce matin. Alléluia. Si tout le monde se met d'accord pour aller à gauche, nous irons à droite. Si tout le monde va à droite, nous irons à gauche. Parce que nous ne suivons pas tout le monde. Nous avons un Dieu, notre Dieu, que nous suivons. Alléluia. Daniel et ses amis en Babylone, à Babel, ils ont eu une proposition. Ils leur ont dit, venez, nous allons vous entretenir, nous allons vous instruire, nous allons vous éduquer et nous allons vous nourrir, pas avec n'importe quelle nourriture, mais avec les mets du roi. Quelle séduction! Daniel, est-ce que chez toi, là-bas en Israël, à Jérusalem, tu mangeais les mets du roi? Quand Daniel disait non, ces gens le regardaient, ses collègues, les autres jeunes gens les regardaient comme des malades. Mais écoutez, les mets du roi, ça vient, nous partageons la même table que le roi. Cet homme a dit qu'il te prendra en charge. Non seulement qu'il te prendra en charge, mais il va te payer un loyer, un appartement en ville. Non seulement qu'il payera ton appartement en ville, il va prendre soin de tes frères. Il va payer leurs études. Il va prendre soin de tes parents. Ton père ne travaille plus. Il va prendre soin de lui. Alors et tes amis te disent, écoute, tu n'as jamais... Ça, c'est une opportunité à saisir. L'esprit de Babel. Mais la Bible dit que Daniel se résolut de ne pas se souiller avec le mets du roi. Il a préféré manger des légumes. Mais écoutez, à chaque fois que tu te lèves pour Dieu, Dieu se lève toujours pour toi. Alléluia. À chaque fois que tu prends position pour lui, le Seigneur prendra toujours position pour toi. La Bible dit, quand l'heure des tests, l'heure de l'évaluation est arrivée, Daniel et ses compagnons, ses amis ont été trouvés 10 fois supérieurs en intelligence par rapport à ceux qui se délectaient avec le mets du roi. Notre Dieu fait la différence. J'aime comme Malachie dit, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne les craignent pas. Entre ceux qui servent Dieu et entre ceux qui sont justes et ceux qui se souillent. Tiens bon, Dieu va te démarquer. Ne cède pas à l'esprit de Babel. Tu vas faire la différence. Dieu va te mettre en évidence. Afin que tout le monde se rende compte que Dieu est celui qui récompense, qui rémunère ceux qui lui sont fidèles. Ce matin, je voudrais te dire une seule chose. Renonce à l'esprit de Babel. Ne cède pas. Tiens bon et Dieu va te démarquer. Que Dieu vous bénisse. Je nous invite à nous lever tous ensemble. Je ne voudrais pas faire un appel ce matin. Mais chacun va faire son propre appel dans son cœur. Je ne sais pas là où tu te situes. Es-tu en train d'être amorcé par l'esprit de Babel comme cette femme amorcée, cette prostituée, cette étrangère amorcée, ces jeunes hommes? Est-ce que tu sens des pressions? Tu sens que ça vient? Et tu sens même que tu es déséquilibré. Tu es sur la porte de céder. Ou peut-être même que tu as cédé longtemps. Ou peut-être même que tu viens de céder. Ou encore que tu as cédé, même tu as construit un bâtiment, un monument. Tu t'es assis dedans. Ou peut-être que tu résistes encore. Je ne sais pas là où tu es. Mais peu importe. Ceux qui sont tombés, Dieu est capable de relever. Ceux qui sont attirés, le Seigneur nous donne la force. Il dit que celui que le juste se justifie soit encore davantage juste, que le saint se sanctifie encore. Selon que l'Esprit a parlé dans ton cœur, lève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux être jamais pris dans les filets de l'esprit de Babel. Élève ta voix.
Si vous avez été touché par ce message, vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter, s'il vous plaît, au numéro 089 80 48 889 ou le 099 93 61 670. Retrouvez-nous sur le site www.cmphiladelphie.org. Venez communier avec nous sur l'avenue de la Science au numéro 4935, référence École La Puisette, Kinshasa Gombe. Que Dieu vous bénisse.